Et au menu de notre club cet après-midi, des ondes gravitationnelles, le côté obscur de l'univers et un guide pour nous aider à améliorer nos vies pourries. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
Il y a des clones à la une de la science aujourd'hui.
Oui, avec la naissance au Japon de 3 chiots clonés à partir d'un autre clone de chien obtenu en 2005. On s'intéresse aux lignées de clones avec Olivier Sandra de l'INRA.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise notre club aujourd'hui, préparé par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités Aline Richard, Sarah Antier, Hervé Doll, Nicole Ferroni et Sandra Colombo. Bonjour à toutes
bonjour
et à tous.
Bonjour.
Bienvenue, tout le monde est en forme. Sarah Antier, vous êtes astrophysicienne, vous avez vécu de près la grande aventure des ondes gravitationnelles et dans un article pour The Conversation France, vous racontez justement tout ce que vous avez vécu, votre émerveillement de jeune chercheuse. Vous aviez envie de montrer quoi, la facette plus humaine au fond de cette aventure scientifique?
Oui, dans cet article, je voulais montrer comment cette découverte a été vécue de l'intérieur par l'ensemble des scientifiques français.
Et on va en parler avec vous dans un instant et avec vous, Aline Richard, pour The Conversation. Hervé Doll, vous aussi, vous êtes astrophysicien et vous publiez Le côté obscur de l'univers chez Duno. De l'obscurité, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a beaucoup dans l'univers, effectivement.
Beaucoup dans l'univers, beaucoup dans nos têtes, parce qu'on ne comprend pas grand-chose à cet univers. Et puis, je vous rassure, on va tous mourir.
Oui, mais... merci.
Non, je parle de choses un peu plus gaies, mais effectivement, on ne comprend pas tout dans l'univers. Et la matière noire, l'énergie sombre, voilà.
Voilà, c'est noir et obscur, c'est qu'il y a du mystère, en général, en science. Hein.
Exactement.
Et puis, il y a notre camarade du petit matin, Nicole Ferroni, qui est venue avec son acolyte Sandra Colombo pour un livre « Améliore ta vie pourrie » aux éditions du Cherche Midi, qui va aussi d'ailleurs éclairer la part obscure de nos vies. Nicole, hein.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire, c'est dans le but de compenser la partie intelligente de cette émission. J'espère qu'on pourra aussi le compenser avec une forme de stupidité éclairante.
Mais vous allez y contribuer, j'en suis certain. Sandra Colombo, on apprend beaucoup de choses dans ce livre.
Oui.
Et tout est scientifiquement prouvé.
Tout est scientifiquement prouvé par Nicole Ferroni elle-même.
Voilà.
C'est vous dire.
C'est
à
une
le
bonne
niveau
caution
du livre.
Absolument. Et on se retrouve dans un instant pour en parler tous ensemble avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et des lignées de clones aujourd'hui à la une de la science, puisque des chercheurs japonais ont annoncé cette semaine avoir donné naissance à 3 clones de Snoopy. C'est le premier chien qui avait été cloné en 2005. Et de son côté, Dolly, la brebis, donne également de ses nouvelles, le tout premier clone de l'histoire, qui a été plusieurs fois recloné d'ailleurs depuis 1995. Quel est l'intérêt de cette pratique? On en parle avec votre invité, Axel Villard.
Oui, on est au téléphone avec Olivier Sandra. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA dans l'unité biologie du développement et reproduction. Alors des clones de clones, on les appelle comment, des reclones?
Eh ben oui, je pense que c'est la définition la plus exacte que vous pourriez avoir. C'est peut-être pas très français, ça fait peut-être pas très élégant, mais effectivement reclone, ça me paraît approprié.
Et ça consiste en quoi exactement de faire des reclones? Comment ça marche?
Ben écoutez, c'est la technique est à peu près la même que pour faire un clone, simplement plutôt que d'avoir un donneur qui ne serait pas un clone, dans ce cas-ci, c'est déjà un clone. Et donc vous procédez avec une technique qui est toujours aussi compliquée, mais vous prenez donc une cellule de votre clone et celle-ci, vous allez la placer dans un ovocyte pour donner un clone de ce clone, donc un reclone.
Est-ce qu'on a des différences génétiques différentes d'un clone avec son premier individu, entre un clone et son reclone?
Alors on n'a pas les détails actuellement de tout ce qui pourrait être fait, en particulier sur les clones de chiens là qui viennent d'être publiés.
Ouais.
Mais par contre, on peut s'attendre à des différences, je dirais, assez classiques dans notre expertise, qui sont des différences de génome, probablement, puisque la technique du clonage ne permet pas de conserver certaines parties du génome, en particulier le mitochondrial, et des marques épigénétiques qui seront certainement différentes également.
Alors, le génome mitochondrial, c'est celui qui est apporté par la mère, c'est ça?
Absolument.
D'accord.
Alors donc, entre Snoopy numéro 1 hein, et puis tous ces clones, il y a quand même des différences, Olivier Sandra?
Eh bien, effectivement, on a certainement des différences qui sont peut-être pas visuelles dans ce qu'on peut en constater, en tout cas, de la fille de la photo hein, qui est publiée dans Scientific Report.
Ah oui, c'est vrai.
Mais, voilà. Mais par contre, on voit bien qu'ils ont déjà quelques différences au niveau de la fourrure. Et on peut s'attendre aussi à des différences de type épigénétique entre le donneur initial, Snoopy, et cette tribu de 3 chiots.
Alors, on imagine que ces chercheurs font pas ça pour s'amuser. Quel est l'intérêt de faire des reclones, alors?
Alors, pour ne pas s'amuser, je serais pas forcément aussi, je dirais, direct.
D'accord. Vous parlez des Japonais, c'est ça?
Alors, d'abord, c'était aussi des Coréens, si vous constatez un peu l'attribution des... Et deuxième point, c'est que je pense qu'il y avait un acte de communication autour de ça, qui était quand même de pouvoir peut-être réaliser sur une espèce, je dirais, de compagnie, un acte qui a déjà été réalisé sur des espèces d'animaux d'élevage ou des espèces modèles, hein, type la souris. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il voulait essayer aussi de montrer que peut-être que la longévité du clone pouvait être transférée d'un clone à un autre en essayant de limiter tout ce qui avait été un peu le débat à l'époque avec Dolly, à savoir un vieillissement prématuré du donneur qu'on pourrait peut-être retrouver du coup dans les clones de clones.
Mais alors ce vieillissement prématuré, on en a souvent parlé en parlant des clones, est-ce qu'il est avéré, est-ce qu'il est documenté? Maintenant vous parlez de Dolly, il y a des études sur Dolly je crois.
Alors effectivement, il y a même une revue assez récente hein, qui a été publiée par un groupe allemand sur, je dirais, le vieillissement des clones. Et autant Dolly, et il y avait eu un premier papier en souris aussi qui montrait qu'a priori, ces animaux avaient tendance à vieillir plus rapidement que leurs équivalents non clones. L'ensemble des analyses qui ont pu être publiées maintenant montrent que globalement, les clones vieillissent a priori aussi bien que les individus non clonés. Et nous disposons à l'INRA d'animaux bovins de 15 ans d'âge, hein, c'est le programme de Jean-Paul Renard et Ellen James, sur lequel on voit clairement que ces animaux ne sont pas différents d'animaux de même race, d'un âge équivalent, si tant est qu'on puisse trouver des animaux de 15 ans.
Ah oui, donc on clone à l'INRA aussi, alors c'est ça?
Oui, absolument, Mathieu. Nous clonons à l'INRA. Nous avons cloné depuis 1998, en particulier, donc c'est le groupe de Jean-Paul Renard qui s'était consacré à ces expertises, qui étaient donc le bovin en 98 avec Marguerite, et ensuite on a eu du rat et du lapin qui ont été réalisés dans nos murs.
Bon, ils vont bien?
Eh ben, écoutez, les rats et les lapins ayant une durée de vie plus courte, on n'en a plus, mais par contre, nos bovins, je puis vous assurer que ceux qui ont 5 ans et 15 ans vont bien.
Bon. Alors, l'idée derrière ces recherches des Japonais et des Coréens, c'est de proposer à des familles d'avoir toute leur vie le même chien, c'est ça?
Alors, l'une des idées était celle-ci, mais a priori, on ne serait pas obligé de faire un clone d'un reclone, enfin, un reclone, pardon, d'un clone d'un clone. Vous pourriez très bien imaginer que vous partez du donneur initial, qui était Snoopy, et que celui-ci, à travers la multitude de cellules que vous pouvez générer à partir d'une petite biopsie de peau, puisse redonner à chaque fois son clone. Il n'y a pas forcément besoin, et je vois pas d'intérêt direct à aller faire un clone d'un reclone.
Oui, c'est pour prolonger la vie de Snoopy, donc, en fait. Hein, c'est beau, cette histoire. Aline Richard, vous vouliez réagir?
Oui, enfin, j'avais juste une question, c'est pas pour être mauvais esprit, mais dites-moi le
Snoopy,
chien,
Snoopy, le numéro 1.
Clone, est-ce que c'est pas le fameux chien de Wang, celui qui avait triché sur le clonage humain?
Oh, qu'elle est méchante!
Alors effectivement, j'ai cherché un peu s'il y a effectivement Wang hein, qui signait le premier papier dans Nature en 2005. Là, le nouveau papier, a priori, il a disparu des auteurs.
Ah.
On pourrait imaginer, alors je sais pas si le même Wang par contre, mais clairement, on est toujours dans cette même engeance.
Oui.
Après, qu'on puisse dire que, je sais pas ce que vous voulez dire par là, si c'est mauvais angle en disant qu'on pourrait imaginer qu'il est triché, je pense que ça a été refait sur d'autres espèces de chiens.
Non, mais le chien n'a pas été truandé, je me rappelle très bien de la publication dans Nature, mais bon, Wang est quand même pas un chercheur qu'on peut applaudir,
il a quand même truandé
complètement ses expériences sur le génome humain.
J'entends bien ce que vous dites, mais là, pour le coup, comme on était sur la partie chien, je dirais que pour la partie humaine, autant je peux être aussi critique que vous l'êtes, autant pour la partie chien, je dirais que pour l'instant, je lui laisse le mérite de cette découverte.
L'inspecteur Richard mène l'enquête. Attention.
Oui, pour terminer, on entend de moins en moins parler du clonage. Est-ce que scientifiquement, c'est un sujet qui est encore vivant?
Alors, ça reste un... Vous avez raison, Axel. C'est un sujet qui reste vivant. Certes, mais je pense de moins en moins. Donc, avec l'arrivée des cellules iPS, hein, ce qu'on appelle ces cellules qui sont, je dirais, organisées à partir de cellules un peu avancées pour donner des cellules souches, par Yamanaka au départ, je pense que le clonage a un peu perdu de son attrait.
Mais quelle est la raison? Il y avait beaucoup de promesses, beaucoup de fantasmes aussi autour.
Oui. Il y avait beaucoup de promesses fantasmes. Il reste quand même qu'obtenir un individu cloné reste toujours un acte, je dirais, assez coûteux, à la fois en personne, en termes d'expérimentation animale, pour obtenir finalement que quelques individus très rares. Le deuxième point, c'est que les IPS ont permis, donc ces cellules induites, ont permis quand même de répondre à une partie des questions sur lesquelles le clonage était positionné au départ, et que ces IPS sont plus faciles à obtenir que les cellules par clonage.
Ouais. Olivier Sandra, très vite pour terminer, le clonage humain, est-ce que, selon vous, dans un laboratoire quelque part dans le monde, un fou furieux a déjà tenté de cloner un humain ou pas?
Alors ça, Mathieu, je pense que Moi, je reste convaincu que c'est quelque chose qui a été tenté.
Ouais.
Il y a eu des analyses qui ont été publiées parce que là, effectivement, on n'était plus trop dans le domaine de l'éthique. Hein, tant qu'on reste sur des stades très précoces, ça tient à peu près. Je pense que dans quelques années, je ne serais pas étonné qu'on trouve un clone d'un clone, mais faudra-t-il encore arriver à l'identifier.
Ouais. Et le clown d'un clown, nous, on les a dans le studio, c'est Nicole Ferroni et Sandra Colombo. En fait, c'est ça, c'est les deux clones. Merci beaucoup à vous, Olivier et Sandra, pour ces explications. Et puis, Axel, on se retrouve lundi.
À lundi.
Une nouvelle une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les scientifiques justement de la NASA qui sont prêts à retourner sur Vénus depuis 85 et les sondes éphémères russes. Plus aucun objet humain n'a traversé l'épaisse atmosphère soufrée de la planète pour se poser sur la surface. Et pour cause, les conditions de température et de pression détruisent tout appareil électronique en quelques heures. Eh bien, les ingénieurs de la NASA viennent donc de mettre au point des puces électroniques qui peuvent résister à des températures de 400 degrés et à des pressions jusqu'à 90 bars. Une nouvelle ère d'engins d'exploration vénusien est donc envisageable. Le top 10 des gènes humain dans les publications scientifiques, un thésard d'Harvard et du journal Nature viennent d'établir la liste des gènes les plus cités par les scientifiques dans l'histoire. Sur les 2000 gènes étudiés au total, 100 seulement apparaissent dans plus d'un quart des papiers scientifiques. Et le premier du classement, le TP53, est cité en moyenne deux fois par jour. Il totalise plus de 8000 références. Ce gène code pour une protéine anticancéreuse très prometteuse, surnommée la gardienne du génome. Le deuxième et troisième gène du classement, le TNF et le EGFR, sont aussi issus de la recherche sur le cancer montre bien donc que cette maladie est une des priorités aujourd'hui en termes de santé humaine. Et puis les dauphins mâles offrent des éponges de mer aux femelles pour les conquérir. Cette élégante découverte nous vient de l'université d'Australie occidentale où les chercheurs ont capturé des images d'un rare balai. On y voit les dauphins mâles plonger pour arracher des éponges, les pousser vers la femelle pour une tentative d'accouplement. Selon l'auteur de l'étude, les dauphins qui font partie des animaux les plus complexes sur le plan social utilisent donc des ressources dans leur environnement. Non pas comme un outil, mais comme un cadeau. Un cas extrêmement rare dans la nature. Un commentaire de l'ancienne prof de sciences de la vie, Nicole Ferroni.
Moi, je me laisserai pas avoir. Je pense que si un homme m'offre une éponge, je suis pas sûre d'accepter.
Ouais.
Et c'est le club dans un instant.
But motherfuckers forget till I'm back up on the set and every motherfucking jump shot wet. Woo! Same outfit every day like a cartoon. They'll never find you in a shark suit and there will never be a part two. Shit, you're looking at some motherfucking art, boo. Two punts from the inhaler got me feeling like Morris Taylor. Two kisses on the cheek for my tailor. I got the soul of an Amazon healer. Better be sure to put them cameras on. Turn dreams into real shit. Yeah, I might be sick. Sitting courtside, I'm likely lit. Draw blood, I'm already made. But little man will cut your face like wedding cake. When the chef brought the duck to the table, that shit was shining like an angel. I never trust a dude named Angel. Long steel 4/5, turn him to an angel. The sky opened up and down came me. Young AB flowing in a Jag from the 80s, tan like I just left Haiti. Looking like I had mad plastic surgery. They turned Bam Bam Chinese, and that's fine by me. Shit, I need some time to realign my chi. So bitch, please pass that bomb by C before I get upset. You don't even know me. You don't even know me. You don't even know me. You don't even know me.
Oh, that thing sometimes I sometimes have said.
Axon Brunson à l'instant dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, le club.
Voilà, et ça discute déjà sec dans notre club cet après-midi autour des ondes gravitationnelles, du côté obscur de l'univers et puis autour d'un guide pour nous aider à améliorer nos vies pourries. Et bien sûr, vos messages, puisque vous pouvez nous rejoindre sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Sarah Antier, on va commencer avec vous, puisque vous êtes astrophysicienne au laboratoire du LAL, l'accélérateur linéaire à Paris-Saclay. Ça sert à quoi un accélérateur linéaire exactement ?
Accélérer les particules.
C'est votre labo ou pas ?
Oui, c'est notre labo, mais moi je suis plutôt dans un petit groupe plus exotique qui fait le lien entre la physique des particules, qui est le cœur du métier du LAL, et l'astronomie.
Hervé Doll, vous avez la réponse, vous, sur cet accélérateur linéaire?
Oui, parce qu'en plus, c'est Paris-Sud, hein, je veux pas jouer mon oiseau de mauvaise augure, mais c'est Paris-Sud et Paris-Saclay. Donc, l'accélérateur linéaire est un laboratoire historique qui a permis des collisions de particules, et puis sa grande renommée se poursuit au CERN avec d'autres établissements comme le CEA, etc.
Magnifique. Sarah, vous racontez en tout cas dans un article pour le site The Conversation France, votre aventure personnelle au cœur de la découverte des ondes gravitationnelles. Donc, c'était en août dernier, avec ce signal envoyé par deux étoiles à neutrons, parce qu'il y a un an, on avait déjà eu les trous noirs qui étaient
en
collision.
En 2015,
c'était la première détection directe des ondes gravitationnelles. Et puis, à votre tour, là, ce sont des étoiles à neutrons. Alors, on va écouter, pour commencer, l'annonce qui a été faite de cet événement, donc en octobre.
We have, for the first time, seen both gravitational waves and light from the collision of two dense dead stars called neutron stars.
Yeah. Okay. Voilà, c'est Fanny Boyon, la réalisatrice, qui s'est lâchée sur les applaudissements, hein, parce qu'on trouvait que ça manquait un petit peu d'ambiance, donc on en a rajouté. Mais c'est pour dire quand même l'ampleur de l'événement, Sarah Antier. Hein.
Oui, on était très émus de partout dans le monde, parce qu'il faut savoir que notre collaboration, donc la Ego Virgo, elle regroupe des chercheurs de partout dans le monde, et donc les Américains, les Italiens, les Français. Mmh. Et donc on était tous émus quand il y a eu l'annonce le 16 octobre. Sur cette découverte donc de la détection d'ondes gravitationnelles à partir de la collision de deux étoiles à neutrons. Et ce qui était encore plus magnifique, c'est qu'il y avait aussi une détection de lumière associée. Donc, très technique.
Oui, on ne se rend pas bien compte, en fait, c'est ça le problème.
Très technique, de façon très technique.
Moi, je vous crois, hein, je vous dis, c'est très important
de façon,
comme découvert.
Oui, c'est de façon très technique, il y avait une émission de sursaut gamma.
C'est ça, bien sûr.
Parce que quand les étoiles à neutrons, elles sont faites de matière, la matière est éjectée, et là, ça forme d'autres processus, comme les sursauts gamma, qui sont très collimatés, sont des jets extrêmement puissants. Et un autre phénomène qui s'appelle la kilonova, qui là était une émission plus isotrope. Donc ces deux phénomènes avaient été observés en même temps avec les ondes gravitationnelles. Et donc c'était encore plus une fête parce que nos partenaires astronomes étaient de la fête. Donc c'était vraiment...
Ouais. Aline Richard, vous avez souhaité justement que Sarah vous raconte tout ça dans cet article. Ouais.
Oui, ce qui est très sympa à lire, c'est en fait du point de vue des gens qui font et des jeunes comme Sarah, des jeunes astronomes, qui nous racontent en fait cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont, comment ils l'ont vécu? Ils étaient en vacances, hein, à Nice, avec les mômes, ou au Pays Basque, et ils étaient sur les charbons ardents, en attendant, ils avaient sur leur téléphone des alertes qui les prévenaient quand il y avait une suspicion d'onde gravitationnelle, et ils étaient comme
il y a
fous.
Une appli?
L'appli Made in Cosmos, et en fait, elle raconte ça, et c'est vraiment très chouette parce que aussi, on se rend compte que finalement, une découverte scientifique, n'importe laquelle, hein, qu'elle soit sur la biologie ou sur l'astrophysique, c'est plein de gens, et c'est pas forcément que des scientifiques, c'est des techniciens, c'est des ingénieurs.
Alors justement, Sarah, pour répondre à Nicole Ferroni, il n'y a pas vraiment d'appli, mais le système est un peu le même, parce que vous êtes susceptible d'être prévenu en permanence sur vos téléphones ou vos ordi, en fait, c'est ça le truc.
C'est ça, on attend que le ciel veut bien nous faire parvenir un message, et directement, donc, on a une alerte sur notre smartphone, on se connecte à un espèce de Skype avec tous nos collègues du monde entier, donc c'est assez magique, et là, on ouvre notre ordinateur, on vérifie nos premières données, on voit si oui ou non c'était important. Et celle du 17 août, c'était clairement quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et donc là, l'excitation était tellement palpable. Donc voilà.
Ouais. Et vous, alors, vous étiez en voiture sur l'autoroute avec votre mari en direction de la maison de votre grand-mère, c'est lorsque ça. Tout d'un coup, votre ordinateur a
glissé. Le nom de gamma.
C'est ça.
Mais c'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé.
C'est exactement ça. Ouais. J'étais sur la route. J'ai dû chercher mon ordinateur derrière les sièges arrière. C'était pas évident. Mon mari m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais là, il y a une alerte. Il faut qu'on vérifie. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai vu que c'était important. Et je lui ai dit, arrête-toi à la prochaine heure pour vérifier. Parce que, vous savez, la 3G, ça marche pas vraiment tout le temps sur l'autoroute. Ouais. On fait des efforts, mais bon.
Ouais. Hervé Doll, il faut expliquer quand même aux gens qui nous écoutent, parce qu'on s'amuse, on rigole, et puis on se dit, bon, allez, c'est important, mais basta. Mais c'est vraiment très important ce qui a été découvert.
Bah, c'est super important.
Ça a complètement changé l'astronomie, en fait. Hein.
C'est en train de changer l'astrophysique en général, parce que les précédents événements étaient obscurs, disons. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'émissions lumineuses associées. Et alors c'est quand même difficile de faire une analyse complète sur les ondes gravitationnelles. Il y a beaucoup d'informations, mais la lumière est quand même un vecteur important. Et là, avec la lumière, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a pu voir la nucléosynthèse j'aime pas le terme création parce que c'est pas scientifique, mais la synthèse d'atomes plus lourds qui sont prévus depuis les années 40 à peu près. On l'a vu presque en direct avec des télescopes, des spectroscopes, etc.
Donc de la théorie, là, on est passé vraiment à l'observation.
Complètement. Donc là, en quelques années, alors on savait qu'Einstein s'était pas complètement trompé, on savait que la physique nucléaire est pas complètement nulle non plus, mais là, en quelques mois, on a des confirmations tangibles, observationnelles, très très claires, des théories les plus fondamentales du début du XXe siècle et des années 40-50 de la physique nucléaire. Et c'est très important, puisque la démarche scientifique, on croit que c'est simple, etc. En fait, il y a des prédictions, et l'univers est un grand laboratoire, mais il reste encore des choses à confirmer, même si on l'utilise tous les jours. Moi, tous les jours, j'utilise la matière noire, mais en fait, on ne sait pas si ça existe, etc. Donc, avoir des confirmations observationnelles ou
réelles... C'est bizarre, hein, leur métier, quand même. On ne sait même pas si ça marche. Non, c'est quand même dingue, quoi. Ouais. Ouais. Aline.
Juste pour donner un exemple peut-être un peu plus palpable pour nos amis, on a découvert, grâce à cet événement du 17 août, comment se forme l'or cosmique, l'or, la matière brillante que nous connaissons dans le cosmos.
Voilà, et ça permettra d'écrire un nouveau chapitre également dans votre livre, Nicole et Sandra, puisque vous avez une partie consacrée au pognon.
Hein. Oui, bien sûr, mais si on ne savait pas qu'il y en avait dans le cosmos.
Et on aime beaucoup créer des ponts comme ça et des liens entre les...
Mais c'est très bien fait, Mathieu.
Les invités. Alors, comment a réagi votre grand-mère, Sarah, quand vous êtes arrivée chez elle complètement excitée avec votre ordinateur? Parce que vous vouliez tout laisser en plan, là. Hein. Il ne s'agissait plus de passer un moment avec votre famille. Il y avait une importance.
C'est ça, ça faisait des mois que je ne l'avais pas vue quand même. Donc j'arrive en vacances et là, elle était en train de m'attendre sur la table familiale. Et j'arrive et je lui dis, on a fait une découverte, on va peut-être avoir le prix Nobel. Et j'ai fait trois fois le tour de la table. Elle m'a dit, bon, je la connais, c'est une astronome, elle est rêveuse. Mais là, elle est plus qu'excitée, il doit y avoir un truc important. Et j'ai tout de suite rallumé mon ordinateur. Et donc, elle s'est dit, ah oui, ça doit être important. Ouais. Et effectivement, il y a eu le prix Nobel de physique discerné à toute la collaboration en octobre. Ouais. Donc, j'avais
ouais. C'était pas pour celui-là, d'ailleurs.
C'était pour la détection précédente. Ça récompense bien tout ce travail sur la mise au point des détecteurs.
Et ça a été combien? 24 heures de Skype ensuite entre les physiciens du monde entier?
Oui, 24 heures de
Skype. Mais non-stop, c'est incroyable.
24 heures de Skype sans arrêt. On voulait tous nos collègues. Il faut voir les Américains, les Chinois, les Français, tous connectés à cette visioconférence. On ne voulait pas que ça s'arrête. Et c'est surtout qu'on attendait des nouvelles informations. Parce qu'au début, on n'avait que la détection de l'onde gravitationnelle et le signal de sursaut gamma associé. On n'avait pas la partie de la kilonova, vous savez, l'émission isotrope. Donc pour ça...
Sandra, s'il vous plaît.
Mais vous savez, moi, je suis toujours fascinée, parce que moi, je suis donc ce qu'on appelle une scientifique molle. Hein, j'ai un DSS de psychoclinique, donc autant dire, voilà, pas grand-chose face à ceux qui font de la scientifique dure. Et je suis toujours fascinée de voir à quel point je ne comprends rien.
Et par le nombre de syllabes aussi.
Mais oui, déjà, isotrope, kiloneva... Oui, c'est ça, tout plein des mots à plusieurs syllabes.
C'est un des beaux scores du Scrabble.
Non, mais c'est super. Moi, je suis complètement passionnée par la passion. Je ne comprends rien, mais j'adore.
Oui, alors c'est ça, mais c'est amusant ce que vous dites, parce que finalement, le grand public est un peu dans le même cas. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qu'on capte pas du tout, mais on est passionné, on est intéressé aussi, parce que c'est complexe votre domaine de l'astrophysique, Hervé Doll.
Hein. Je j'ai l'impression qu'on touche aux, racines de ce qu'est l'humain aussi. Hein. La curiosité humaine, c'est ce qui nous, touche tous. Donc, moi, je vais dans les écoles, dans les lycées, et puis bon, à l'université, évidemment. Mais donc, j'essaie d'être clair quand je vais dans ces endroits-là, plus clair que d'habitude. Mais moi-même, en tant que, même si je suis scientifique, quand j'entends d'autres choses sur la psycho ou l'art, même si j'adore l'art, j'y comprends pas grand-chose nécessairement. Il y a un côté curiosité humaine qui fascine tout le monde. Donc, quel que soit le sujet, quelle que soit la manière dont il est abordé. Plus c'est clair, mieux c'est, on est d'accord, mais on sent qu'on touche quelque chose de profondément humain, et la curiosité est excitée par tout un tas de choses, et la science fait partie de cette excitation de la curiosité. Donc moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Mathieu, quel que soit le domaine, même si c'est parfois un peu abscon ou obscur, ça nous touche.
Ouais, et puis ça concerne les questions de nos origines aussi, donc toutes ces questions.
D'où vient-on, où allons-nous, d'où venons-nous, où ai-je, etc.
Et ça fait l'objet d'un article dans The Conversation France, TheConversation.com, Aline ?
Absolument, TheConversation.com.
Dont le principe est d'inviter des scientifiques à écrire des articles clairs.
Tout à fait. D'ailleurs, Hervé Doll est un de nos auteurs.
Mais oui, et on adore la ligne éditoriale de The Conversation, parce qu'il peut, parfois,
tout le monde est content.
Il
simplifie
un petit peu. Il y a quelque chose qui se crée là.
Les grandes universités publient dans The Conversation.
Eh bien, formidable. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va évoquer la part obscure, justement, de l'univers. On poursuit sur le chemin de l'astrophysique.
Je drague comme on crève, avec tellement de choses à regretter. Comme ta langue sur mes lèvres et mes mains sur tes poignets. Dis-moi, que puis-je y faire si je ne sais faire que traîner? Car tu es loin et moi je crève de ne pouvoir te toucher. Et je sors et je drague comme on crève, avec tellement d'envie à ravaler. Mais si ma bite et mon cœur font grève, je peux très bien me toucher. Si ma langue traîne par terre, je peux très bien l'avaler. Car tu es loin et moi je crève de ne pouvoir te baiser. Oh mon amour, oh mon amour, je crève de ne pouvoir t'enlacer. Oh mon de pouvoir te baiser. Mais si un beau jour je cède, pourras-tu me pardonner? Mais si un beau jour je m'achève dans l'infidélité, penses-tu que l'on se relève de tous ces corps si étrangers, ou que l'on en crève? Ça me ferait tellement marrer. Si l'envie m'envahit les lèvres, je peux très bien me lécher. Si ma langue traîne par terre, je peux très bien l'avaler. Oh mon amour, oh mon amour, je crève de ne pouvoir te toucher. Oh mon amour, oh mon amour, je crève de ne pouvoir te baisser.
Et la fidélité, c'était la voix de Miossec.
La tête au carré, le club.
En nous enfonçant dans l'univers, nous devons nous projeter bien au-delà de notre propre existence. Nous ne devons pas penser en tant qu'individu. N'entre pas docilement dans cette douce nuit.
Avec Mathieu Vidard. sur France Inter.
Voilà, nous aussi, on va entrer dans cette douce nuit grâce à vous, Hervé Doll, extrait d'Interstellar à l'instant, puisque vous êtes astrophysicien, professeur, vice-président de l'Université Paris-Sud, et ce livre, le côté obscur de l'univers chez Dunod. Quelle est votre spécialité par rapport justement à Sarah Antier?
Alors moi, c'est la cosmologie, vraiment l'origine de l'univers et des galaxies, donc on se place à un petit peu plus grande échelle, plus grande distance, et les temps premiers de l'univers. Ouais. Ce dont s'occupe Sarah et toutes les collaborations, c'est plutôt des objets très compacts, qui sont plus proches de nous.
Ouais. Et les galaxies, on a l'impression qu'elles grandissent d'année en année avec les découvertes d'ailleurs.
Ah oui, oui. Alors,
il y a de l'inflation quand même.
Bah, il y a de l'inflation partout, ma bonne dame. Hein, voilà, on n'arrête pas le progrès. Mais en fait, c'est difficile de mesurer des choses qui sont à des millions d'années-lumière. Alors il y a de la matière noire, on ne sait pas ce que c'est, qui est à peu près l'équivalent de 10 fois la matière traditionnelle, enfin la matière ordinaire. Ouais. Donc la matière ordinaire, elle est difficile à voir parce que vous prenez une étoile, vous la mettez à des millions d'années-lumière, bah, en fait, vous ne la voyez plus, donc il en faut beaucoup. Donc tout ça est compliqué.
Ouais, et avec quoi vous voyez tout ça d'ailleurs? Avec des ordinateurs maintenant?
Non. Google Sky existe un peu, mais on n'utilise pas ça. On fabrique nos propres instruments et on les envoie dans l'espace. Si vous venez à Orsay, j'ai des super bolomètres recouverts d'or à vous montrer qui ont été refroidis à 0,1
degré. Des bolomètres, Sandra Colombo.
Oui, hein, je me suis dit, c'est drôle, ce nom,
pour mesurer des bolos.
C'est pour mesurer toute
l'énergie. Pour faire de la pétanque dans l'espace.
Voilà, mais presque. On fait de la pétanque avec des photons presque individuels. Et on envoie des instruments alors, dans l'espace pour être exempt de l'atmosphère pour pouvoir voir plein d'ondes qu'on ne peut pas voir au sol parce que le sol, enfin l'atmosphère absorbe des rayonnements. Et donc, on peut observer tous ces rayonnements millimétriques, infrarouges. On envoie aussi des télescopes optiques, genre Space Telescope, enfin, plein d'instruments. On fait ça aussi au sol, même dans le sous-sol, avec des rayons cosmiques et des choses comme ça. Donc, il y a tout un arsenal qui permet d'essayer de mieux comprendre la structure de l'univers et son évolution.
Et vous avez des objets à vous dans l'espace?
Ouais, j'ai même ma signature dans l'espace.
La classe.
Ouais, je sais pas. Mais...
Ah ouais, non, c'est chic quand même. Hein.
Mais on croit que c'est un humain normal, pas du tout. Il est là avec sa chemise en coton, en fait, beaucoup plus haut que ça.
Oui, donc Paris Sud et plus largement Paris-Saclay, c'est vraiment un endroit où on construit des satellites. Et donc, par exemple, il y a un satellite qui va être lancé prochainement, c'est SVOM, en 2021, et c'est une mission franco-chinoise, et vraiment la France y participe. Et c'était, d'ailleurs, je voulais revenir sur ça, parce que c'est vraiment pour détecter les fameux sursauts gamma. Donc voilà, on va en détecter par la
et
suite.
Et on met des moyens pour ça.
Voilà,
c'est
on met des moyens
important.
Pour ça.
Non, mais je sens bien qu'on m'accuse de ne pas croire,
on a pas
mais
peur.
Je veux bien vous croire.
Et la même année, d'ailleurs, il y aura Euclide aussi qui va partir.
Euclide, une grande mission de l'Agence spatiale européenne.
Quelle est cette mission?
Euclide, donc 2021, de l'Agence spatiale européenne, donc avec très forte participation française également, qui va mesurer l'énergie sombre et la matière noire, tout simplement. Alors en quelques années, il faudra 5 ans. On fera des images comme le Space Telescope Hubble sur quasiment tout le ciel. On pourra faire des posters géants avec des galaxies colorées. Ça sera
Moi, j'en achèterai en tout cas.
Ouais, mais il va falloir acheter un grand appart, hein, parce que si on fait tout le ciel, ça va
les images sont gratuites pour vous.
Ouais. En tout cas, il y a Sandra Colombo qui est en lévitation dans ce studio.
Moi, je
vous sens, mais alors, sur un nuage là.
Je suis fascinée.
Alors,
incroyable.
Justement, pour évoquer le côté obscur de l'univers, il y a toutes ces missions aussi auxquelles vous avez participé, dont une qui a marqué beaucoup les esprits, c'est Planck.
Exactement.
Et Planck nous a permis de donner une image de l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, s'il vous plaît. Et ça, c'est une image historique aussi, Hervé Doll, quand même.
C'est une image historique. Alors, on la connaît depuis les années 60, cette image, mais elle a été raffinée. Et ce qu'a apporté le satellite Planck...
Ça ressemble à un œuf, hein, pour se remémorer un petit peu.
Oui, un ovale. Un ovale. C'est la projection qu'on a utilisée le plus souvent. Et ça représente, en fait, les toutes premières fluctuations juste après le Big Bang, parce que l'univers a 13,8 milliards d'années, donc 370 000 ans. Voilà, l'image qui est dans le livre le montre. Ça montre des petites fluctuations, et en fait, ce sont les prémices de ce qui deviendra plus tard, les amas de galaxies. Et les galaxies, et donc les étoiles et les planètes. Et surtout, on a mesuré avec une précision inégalée l'âge de l'univers.
Alors, c'est quoi l'âge exact? Alors, tiens, on va demander à Sandra l'âge de l'univers, Sandra, à votre avis? Petite colle.
C'était un mardi.
Il pleuvait.
C'était un mardi matin.
Il pleuvait. Ce que vous venez de dire, non?
Voilà.
380 millions d'années, là,
voilà,
de milliards. Milliards
presque.
Et il pleuvait. Voilà. Et oui.
Donc 13,8 milliards d'années.
13,8, voilà. j'étais pas loin.
À quelques milliards.
Le chiffre près, je ne l'ai plus en tête, mais on l'a 0,3% près, c'est-à-dire qu'on a une précision inégalée. Et surtout, on arrive... Parce que la précision, c'est formidable. Enfin, les scientifiques, on est très, très excités
très
par ça.
Très précis.
Mais surtout, on a réussi à avoir des contraintes, parce qu'on ne peut pas dire une preuve, on ne peut jamais prouver une théorie hein, en science, mais on a des contraintes sur ce qui s'est passé juste après le Big Bang, 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang, donc plus court qu'un petit claquement de doigts. On appelle ça l'inflation cosmique. Tout à l'heure, on parlait d'inflation. Et bien, Planck permet de donner les meilleures contraintes à ce jour sur ce qui s'est passé juste après le Big Bang, dans cette période où l'univers était en expansion très, très, très accélérée. Aujourd'hui, il est en expansion, mais beaucoup plus douce, si j'ose dire. Et cette inflation est un modèle très en vogue qui permet d'expliquer les principales propriétés de l'univers aujourd'hui.
Mais ça va nous emmener où, cette inflation-là, éternelle, finalement? On va bien savoir.
Alors, pour être technique, l'inflation s'arrête à 10 puissance moins 32 secondes à peu près. Donc, après, c'est l'expansion. Ouais. Donc, l'expansion nous emmènera, on ne sait pas, parce que cette expansion est accélérée, tout doucement accélérée. Donc, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Donc, on va tous mourir, ça, c'est sûr. Mais en plus, on mourra dans un univers qui sera froid, noir, avec que des trous noirs d'un côté et rien entre. On appelle ça la mort thermique de l'univers. Donc, à ce jour, on pense que...
C'est l'attente du Pôle emploi.
Et donc, mais on ne sera pas là, ce sera dans longtemps.
Dans très très longtemps.
Dans très très longtemps.
Alors, puisqu'on parle de trous noirs, on va réécouter un extrait d'Interstellar. Ouvrez bien vos oreilles, parce qu'on n'a pas tout bien compris non plus de la citation, mais on l'aime beaucoup. Vous écoutez.
Ça fait 40 ans qu'il tente de résoudre l'équation de la gravitation.
Cette équation ne pouvait concilier mécanique quantique et relativité. Il en faut plus.
Plus ?
Plus de données, voire l'intérieur d'un trou noir. Les lois de la nature n'admettent pas de singularité nue.
Si un trou noir est une huître, alors la singularité est la perle qu'il renferme. La gravité y est si forte que la singularité se cache dans l'obscurité derrière l'horizon. D'où cette appellation de trou noir.
D'accord, mais si on observe au-delà de l'horizon,
c'est impossible.
Certaines choses sont censées rester inconnues.
Il fallait oser le faire, Hervé Doll. Un trou noir, une huître et une perle, quand même.
La perle et l'huître, j'avoue, je suis sans voix. Pourtant, j'avais vu le film, mais je me souvenais plus de cette citation.
Ah, vous voyez, on voulait vous la
reproposer. Mais ce qu'ils disent, c'est pas complètement faux, parce que il y a des grandes idées en ce moment qui sont débattues sur comment concilier la physique quantique, parce que l'univers au tout début est quantique, c'est-à-dire mu par des propriétés statistiques de la physique subatomique, et la relativité générale, qui concerne les grandes échelles, les grandes accélérations, etc. Ouais. Et on sait pas faire coïncider les deux, et on pense qu'on a vraiment besoin de ça pour comprendre vraiment les tout premiers instants de l'univers, malgré mes mots à plusieurs syllabes.
Ouais. Mais vous êtes fascinant.
Moi, je suis épatée.
Oui, c'est
de
vrai.
Canard.
On en est sans voix, effectivement. Hervé Doll, alors, les mystères qui restent aujourd'hui
à
éclaircir.
Oh là, c'est terrible. Et passionnant. Mais en fait, si on calcule ce que j'appelle le camembert cosmique, vous savez, c'est un diagramme comme on fait
après
dans Excel.
Voilà,
on passe, on est français, on reste bien dans la nourriture. Mais si on fait le camembert cosmique et on garde la densité d'énergie aujourd'hui, dans l'univers, en gros ce qu'il y a dans l'univers, on a 4% qui est à peu près toute la matière ordinaire qui nous entoure, qui a été créée donc soit au moment du Big Bang, soit dans les étoiles, soit dans les kilonovas, soit etc. Et c'est tout ce qu'on connaît. Le reste, on sait que ça existe. Il y a à peu près 25% de matière noire et à peu près 75%, enfin un peu moins pour que ça fasse 100% à la fin, d'énergie sombre, qui est cette énergie très mystérieuse qui permet d'expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Mmh. Alors autant la matière noire, on a des pistes un peu théoriques, un peu observationnelles pour comprendre ce que c'est une matière qui ne rayonne pas mais qui gravite. Autant l'énergie sombre, alors dark energy en anglais ou dark matter en anglais, donc en français on dit énergie sombre. Autant l'énergie sombre, on a vraiment du mal à savoir ce que c'est. Donc en gros 96% de l'univers
est inconnu,
mais on sait le mettre en équation. C'est ça mon message. Ouais. C'est que par exemple l'air qui est dans cette pièce ou qui est dans la pièce de tous les auditeurs, j'imagine, sinon ils pourront pas nous écouter. En fait, on peut pas voir l'air qui est dans la pièce. Ou alors vous êtes très très fort. Et pourtant, on sait déterminer une température, une pression, une densité, même si on le voit pas. Et bon, on fait pareil pour la matière noire et l'énergie sombre. Même si on le voit pas, on arrive à le mettre en équation. Et dans les données de Planck ou d'autres satellites ou d'autres missions, on arrive très bien à calculer comment ça doit se comporter. Et ça marche aux petits oignons, c'est ça qui est fascinant.
Ouais.
C'est que ça marche très très bien, mais on ne sait pas ce que c'est.
Donc vous vivez dans le vertige, au fond, Hervé Doll.
C'est une manière de dire.
Ouais. Et vos galaxies, c'est vertigineux quand même.
Hein. Oui, c'est beau, c'est vertigineux. Elles nous énervent un peu parce qu'on ne comprend vraiment pas grand-chose d'elles, mais elles sont fascinantes.
La galaxie est énervante. Hervé Doll, au micro de La Tête au Carré cet après-midi, avec Le Côté Obscur de l'Univers, préfacé par Pierre Léna.
Oui.
Et ça paraît chez Duno, dans la collection Quai des Sciences.
Une bonne idée pour les cadeaux de Noël.
Voilà. Et alors, dites donc. Et vous restez avec nous parce que dans un instant, nous avons un autre ouvrage scientifique à vous préconiser. C'est Améliore ta vie, grâce entre autres à Nicole et Sandra.
chantons plus la chanson de Chalet. Il y a longtemps que tu n'écoutes plus la chanson du Marquis. La fleur est loin, la mer aussi. Je pense à mort, je pense à vie. Laura Musquet, bien mal appris, se demande encore, toi t'es qui? Il y a longtemps, nous chantonnions en chœur la chanson des chalets. Que tu n'écoutes plus la chanson du Marquis. Descendrais-tu toujours Corvisart? Pour moi ce sera d'enfer, oui comme d'hab. Au hasard, Caruso, Giacomo, Antonio, pour finir comme un con à Rio. Je vis toujours le martyr amour aux mélodies que tu aimais.
La chanson de Sade, extrait de son nouvel album, Jean-Louis Murat, à l'instant.
Tu sais, c'est pas très scientifique.
Tu dis qu'en science, il faut reconnaître ce qu'on ignore.
Là, elle t'a coincé.
La tête au carré sur France Inter.
Nicole Fironi et Sandra Colombo, vous publiez ensemble Améliore ta vie pourrie aux éditions du Cherche Midi avec des dessins de Nicole Fironi. J'ignorais que vous dessiniez Nicole.
Oui, bah oui, et bah vous découvrez. Des Bravo. Dessins de moi et dessins de Sandra.
Ah oui, absolument, puisqu'on parle beaucoup, on parle beaucoup du corps dans cet ouvrage.
Beaucoup trop de messins.
Nicole, un mot d'abord sur votre parcours scientifique. C'est la caution de cette émission,
c'est
évidemment.
C'est la raison pour laquelle on a trouvé un prétexte pour m'inviter. C'est ça, et ça, c'est bien.
On a tiré sur le fil.
Alors, mon parcours scientifique, je suis agrégée, enfin du moins j'ai eu l'agrégation de SVT.
Bravo.
Voilà, c'est la seule excuse.
Et vous avez enseigné donc ?
Oui, tout à fait. J'ai enseigné en collège et en lycée pendant 4 ans, avant de devenir une guignole.
Voilà. Et la science vous inspire toujours d'ailleurs. On peut le constater quand même dans vos chroniques. Elles sont beaucoup de sciences, d'environnement. Enfin, c'est des thèmes qui reviennent de temps en temps.
Oui, c'est vrai. J'ai fait des chroniques. J'ai fait des parallèles entre le CETA et les koalas. Je fais pas mal de parallèles animaliers.
Et vos vidéos, dans lesquelles vous parlez beaucoup aussi de l'impact de la chimie, par exemple, sur l'environnement. Enfin, il y a des choses de temps en temps là-dessus. Bon. Alors, Sandra Colombo, votre rencontre avec Nicole, on veut tout savoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui justifie cet ouvrage à quatre mains ?
Déjà parce que moi j'avais besoin d'une caution scientifique pour pouvoir écrire un livre pseudo-scientifique.
Ouais.
Nous on s'est rencontrés sur le plateau de On ne demande qu'à en rire, c'était une émission de France 2, une émission de guignolerie.
Car vous êtes humoriste vous aussi.
Oui, bien sûr. Et on s'est rencontrés et comme il y avait peu de femmes dans cette émission, on a fait copines.
Voilà. Ouais. Et après on s'est parié par sexe
comme
dans d'autres espèces animales.
On s'est rapprochés, différences corporelles, on s'est dit tiens, si on se faisait qu'une personne, on mettrait une race à l'univers, les 4% qu'on connaît. Donc on s'est dit on va rester séparés, et voilà. Et du coup, on a écrit ce livre parce qu'on avait envie de faire quoi, Nicole? Rien de spécial. On s'est dit, tiens, écrivons un livre. Non, c'est pas vrai.
Non, on est parti du principe que la plupart des humains ont une vie assez pourrie, et donc on voulait les aider. Et comme on faisait partie de ces gens-là, on voulait s'aider nous-mêmes.
Voilà, c'est ça qu'on a écrit. Ça, en fait, avec six chapitres distingués. Exactement. Sur la planète, le corps, l'aspect spirituel, l'argent, on en a parlé tout à l'heure. Les autres aussi, c'est important.
Ah, les études
sur l'empathie, qui sont nombreuses aujourd'hui.
Et sur les foufounes aussi.
Et puis voilà, les foufounes.
Les foufounes empathiques également.
Et les épreuves de la vie, ça fait partie justement des sujets concernants. Alors, dans lesquels vous proposez des solutions, il y a des tutos aussi, il y a beaucoup de photos, c'est presque un roman photo d'ailleurs, cet ouvrage, en plus des dessins.
Parce qu'on est bonasse, alors on s'est dit autant se mettre en photo, vous voyez.
C'est vrai. Et on peut apprendre, parce qu'il n'y a pas que pour les filles, à avoir des tablettes de chocolat, Hervé, si ça vous intéresse.
Moi, c'est méchant, parce qu'à travers sa chemise, on voit bien qu'Hervé... Il s'expanse du corps.
C'est très inaccessible.
Donc il y a un moyen très pratique avec des petits suisses, je crois, et une ceinture.
Et on laisse les gens imaginer.
Qu'on peut se coller sous le ventre. Gros intérêt pour les affaires de la planète, donc Nicole. Vous ouvrez d'ailleurs là-dessus.
D'ailleurs, on a commencé par la planète parce qu'on s'est dit que c'est quand même ce qu'il y avait de plus important. Et c'est vrai qu'en fait, chaque chapitre est à chaque fois décomposé en plusieurs pistes. Dans le cas de la planète, on dit ce que peuvent faire les gens s'ils veulent changer vraiment, un peu ou pas du tout, en sachant que même ne pas du tout vouloir changer ses habitudes peuvent avoir finalement un revers militant. J'explique ou pas, j'ai le temps.
Oui, allez-y, on a le temps. On a 10 minutes devant nous. Là.
On parle soit du greenwashing, parce que c'est vrai que le greenwashing, quand même, une chose à la mode.
Alors, greenwashing, je fais la traduction, ça veut dire laver de verre.
Voilà, puisque c'est vrai que c'est
pour se donner une bonne conscience écolo.
Exactement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui greenwash. Et on se disait que c'était pas juste que ça soit le monopole des multinationales. On pense notamment à McDonald's. On va l'appeler McDonald's, comme ça personne ne saura de qui on parle.
On n'aura pas de problème sur France Inter.
Et voilà, qui par exemple ont changé leur drapeau rouge par un drapeau vert.
C'est vrai. Ouais.
Ou le Coca-Cola qui fait pareil avec sa forme Life. Et voilà, donc on propose par exemple donc aux individus de faire, d'utiliser finalement les mêmes techniques.
On peut faire aussi du greenwashing express quand on a des amis écolos qui débarquent sans prévenir à la maison. Vous donnez dans le livre une petite page d'étiquette à découper.
Exactement, à découper, à coller soi-même sur ces choses qui ne sont pas du tout greenwashées.
Sur ces produits
alimentaires que vous allez servir à vos convives.
Voilà,
quelle belle phrase.
Voilà, l'aquadoche, gel douche, s'il y en a un qui va dans la salle de bain par exemple.
Oui, alors bon, évidemment, vous prenez le seul qui ne se mange pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Oui, mais ça c'est pour le corps.
Pour le corps. Voilà. Je vois bien que...
À l'aloe vérule,
tout à fait.
Produit non testé sur les animaux en cage, les cobayes humains ou les enfants en fin de vie. Voilà, sur ces étiquettes, quand on les lit de très près, voilà ce qu'on peut voir. On peut aussi, alors là, mais pareil, c'est très sérieux, tous les produits que vous avez listés pour remplir le caddie ou pour justement ne pas acheter les produits qui sont tout à fait déconseillés. Oui. Donc vous avez fait une petite liste.
Oui, en fait, le livre, il y a une partie de vraies solutions et une partie de fausses solutions. Mais globalement, c'est qu'on essaie quand même de s'appuyer sur des réalités scientifiques. Par exemple, concernant des méthodes de thérapie express, on est parti du constat qu'aller des fois chez psychothérapeute, ça coûte quand même 60 €, puis c'est pas toujours bien remboursé. Et donc on a essayé de trouver scientifiquement quels étaient les moyens très rapidement de devenir heureux. Donc on a vu par exemple, alors je crois que c'est un médecin russe qui pratiquait le bain d'eau froide et qui remarquait que du coup après on avait un relâchement d'endorphines dans le corps. Voilà, donc on s'est dit les auditeurs de France Inter, plutôt que de dépenser 60 € chez un psychothérapeute, si jamais ils n'avaient pas 60 €, ils pouvaient au moins se mettre dans un bain d'eau froide.
Et plutôt dépenser l'équivalent de combien pour acheter votre ouvrage?
19 €, ce qui n'est pas cher pour une couverture 19... rose qui va vous réchauffer l'hiver.
Voilà, c'était Sandra Colombo qui nous faisait sa petite publicité. Vous parlez beaucoup du neuromarketing aussi, mais voilà encore un sujet sérieux,
qui
est au cœur des préoccupations éthiques de la planète.
Exactement,
quand même.
Et moi je fus une fille de pub, et du coup j'ai bien vu de très près comment les marques nous manipulent. Et en fait, le but aussi de cet ouvrage, j'aime bien dire ouvrage pour notre livre, c'est de dire, peut-être qu'on se fait tout savoir, évidemment, nous les premières, mais moi j'aime bien savoir quand je me fais avoir. Voilà. Et du coup, j'aime bien qu'on me dise, j'aime bien qu'on m'apprenne des choses et qu'on me dise, attention, là, on est en train de te manipuler. Ouais. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a fait ce travail sur le neuromarketing, parce que c'est des choses qui passent très sous le radar de la conscience et qui, du coup, on se dit, tiens, oh là là, qu'est-ce qu'on achèterait bien ces bonnes fraises au mois de février ?
Nicole.
Oui, et par exemple, dans le livre, ce qu'on explique, c'est qu'une fois qu'on sait, par exemple, que c'est au niveau du lobe frontal qu'ont lieu les processus émotionnels qui nous amènent à acheter, ce qu'on propose tout simplement aux gens, c'est de pratiquer une lobotomie de leur lobe frontal pour acheter moins.
Donc vous avez des solutions très concrètes.
Oui, et c'est très pratique pour le Black Friday. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est Black Friday, tout le monde veut consommer. Cherchez plutôt une hache ou une fourchette au niveau du front, paf, et puis certainement ça permet de préserver votre pognon.
Alors l'écolo lover, qui est très beau d'ailleurs, qui est en photo dans votre ouvrage. Alors Nicole,
un petit scoop, parce que
qui est cet homme ?
Voilà, c'est le vrai chéri de Sandra Colombo.
Mais oui, vous avez vu, j'ai pris un clone de Brad Pitt.
C'est l'écolo lover qui a un magnifique panier qu'il a dû emprunter à sa maman, on imagine, avec son casque à vélo et ses badges partout. Voilà, et donc c'est son profil. Est-ce que vous êtes écolo lover, Hervé Dole, ou pas ?
Je sais pas, peut-être.
Il est cosmo lover. C'est la gamme au-dessus.
Absolument. Alors, les poils pubiens, très révélateurs aussi de notre degré de conscience écologique.
Oui, alors je laisse parler Nicole pour ça, parce
spécialiste du poil pubien.
De conscience écologique. En fait, j'ai autant de conscience écologique que de poils. Ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment pu aborder correctement ce chapitre. L'idée de ce chapitre-là, c'était une façon en fait de guider de façon ludique les gens qui voudraient se lancer dans une association sans savoir vers laquelle se diriger, de se laisser aiguiller par leur poil pubien et la façon dont ils l'entretenaient pour voir quel inconsciemment qu'est-ce que ça révélait chez eux.
D'accord.
Donc par exemple,
de manière générale, là vous avez évoqué plusieurs exemples et je me demandais d'où venait, où vous avez eu l'idée de traiter tous ces exemples.
Comment elle nous évacue la question de
soupçonne sa rentrée de ne pas vouloir que je parle de mon pubis.
Alors, répondez, Nicole.
Votre vécu personnel, c'est...
on s'est regardé dans la glace et on s'est dit, oh là là,
c'est une coquine. dans le cas de cet article, par exemple, on pense que les gens qui laissent leur pubis foisonnant et naturel ont une tendance du coup inconsciente vers le naturel, et donc on leur conseille de s'orienter vers Greenpeace, plus que si par exemple ils ont le pubis intégralement rasé, auquel cas ça veut dire qu'ils n'aiment peut-être pas la séduction par le biais des poils, donc ils n'aiment pas par exemple le commerce de la fourrure, et donc on leur conseille plutôt des associations comme PETA ou Animalter.
Oui. Vous posez des vraies questions aussi sur les phoques par exemple, pourquoi on massacre toujours les phoques aujourd'hui?
Alors vous avez compris
Sandra
ou pas, monsieur
Colombo?
Oui, alors Sandra Colombo, elle était partie au départ. L'idée du phoque vient de chez Nicole Ferroni, ça je dois le dire. Oui. Moi j'étais partie sur le cacao, qui est le même principe. C'est-à-dire c'est une absurdité, c'est un cercle très peu vertueux qui s'alimente, qui s'auto-alimente et qui crée des choses qu'on n'attendait pas. Donc dans le cas du phoque, au Canada, donc il y a une chasse au phoque qui est ancestrale, où les gens vont désinguer des bébés phoques sur la banquise, c'est un massacre incroyable. Donc évidemment il y a des associations qui se sont mobilisées, notamment Sea Shepherd, qui se mobilisent parce qu'ils disent il faut arrêter de tuer les bébés phoques de manière insupportable comme ça. Et ensuite, il y a forcément des autres gens qui sont venus, des écolos, des stars et tout ça, pour se faire prendre en photo. Ils sont venus avec leurs hélicoptères. Du coup, ils habitent dans des beaux hôtels. Du coup, tout ça ramène beaucoup d'argent à l'État canadien. Et du coup, même si la peau de phoque, par exemple, on ne peut plus l'exporter en dehors du Canada, on ne peut plus exporter la graisse de phoque, etc., quand même, cette chasse aux phoques continue, puisqu'elle alimente beaucoup de tourisme. Et donc, du coup, Sea Shepherd, l'association, se pose elle-même la question de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de mal, finalement, en dénonçant ce truc-là. Et c'est cette absurdité qui s'alimente, qui est quand même assez fascinante.
Mais heureusement, on a également dans ce livre la carte de France de la bise. Et ça, c'était important parce que cette cartographie n'existait pas. Donc, région par région, on peut savoir combien de bises on fait.
Et de quel côté on commence? Parce que nous, on se fout de boule souvent, on n'est pas de la même région.
Y a-t-il la carte de la chocolatine et du pain au chocolat?
Mais par contre, c'est vrai que ça, on a fait. En fait, on a demandé aux gens sur Internet de nous dire dans leur région combien ils faisaient de bises et par où ils commençaient.
Et il y a la Belgique aussi, elle obtient. droite.
Oui, parce qu'on a des gens qui nous aiment en Belgique.
Eh bien, ça s'appelle Améliore ta vie grâce à Nicole Ferroni et Sandra Colombo. C'est aux éditions du Cherche Midi et ça vient de sortir. Merci à tous.
Merci Mathieu.
Passez un très bon week-end et à très bientôt.